Car bonjour à chacun. Ce matin, on continue dans la série de prédications qui concerne finalement notre vision d'Église, vivre et partager l'amour de Jésus-Christ sur la côte. Et lors des prédications, finalement, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment notre relation avec Dieu, personnelle mais aussi communautaire, puisse s'affermir, grandir, pour que finalement cet amour qu'on reçoit, on puisse le partager. Alors dimanche passé, David a parlé d'Abraham, il a parlé du thème de l'hospitalité, celui de l'intercession, il a parlé aussi des interventions de Dieu et nous a invités, exhortés à être attentifs aux actions de Dieu. Alors ce matin, nous allons réfléchir à une autre relation entre Dieu et en l'occurrence un prophète. Moi j'avais presque envie de l'intituler « Vivre une relation révérencieuse » donc qui honore Dieu et transformante. Et puis si j'ai choisi cet exemple, ce texte dans la Bible, c'est parce que depuis une année, moi je suis un petit peu en réflexion et probablement plusieurs d'entre vous aussi par rapport à ce thème de la repentance. On entend « il faut se repentir », certains disent « de quoi, pourquoi », individuellement ou communautairement. Bon, je pense qu'on a aussi été interpellé en tant que conseil pastoral, les coéquipiers aussi de prière ont été dans les temps d'écoute, voilà, parfois on a été interpellé par la notion du jeûne, la notion de repentance, la notion d'être attiré au désert, la notion de recevoir le pardon, de s'humilier comme Néhémie. Donc voilà, je dirais que dans notre communauté, mais probablement aussi dans votre vie personnelle ou au-delà, c'est une thématique, vu ce que nous vivons, qui est latente, qui doit récemment aussi nous interpeller. Et puis comme je me questionne, voilà, ça fait une année que je dis que je voulais en parler, mais il faut que ça mûrisse, ce genre de choses. Et c'est ce matin que je vais vous donner quelques réflexions. Se repentir de quoi et pourquoi. Alors, si vous lisez Jérémie, vous verrez que son appel est dans le premier chapitre et on comprend pourquoi il cause après. C'est la même chose un petit peu pour Ézéchiel, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il est parlé de sa mission, puis de sa vocation, puis après on sait pourquoi il développe tout le reste du livre. C'est un petit peu plus troublant pour le prophète Ésaïe, parce que son appel, sa vocation, il se situe au chapitre 6. Bon, il n'y a rien de convaincant dans tous les commentaires que j'ai lus pour expliquer pourquoi finalement cette vocation arrive qu'au chapitre 6. Peut-être que la prise de conscience de ce qui s'est passé dans les premiers chapitres l'a amené à cet événement particulier dont je vais lire le texte tout à l'heure. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est que cet épisode, il se déroule en 740 avant Jésus-Christ, puisque c'est l'année de la mort du roi Osias. Osias avait suivi le Seigneur depuis qu'il était très jeune, mais fort puissant, il avait osé braver un interdit, brûler des parfums dans le temple. Il a été frappé de la lèpre jusqu'à sa mort. Alors, c'est dans ce contexte que je vous lis le chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu. » car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, vous rend insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. » Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. » Étonnant comme texte, hein? Même un petit peu dérangeant, je dirais. Est-ce que vraiment ça s'est déroulé comme ça, quoi? Je vais faire quelques constatations un petit peu sur ce texte. Pour moi, cette révélation de Dieu, elle est très particulière. Si vous vous souvenez, Moïse avait demandé à Dieu de voir sa gloire. Il n'avait pas pu, il avait été caché. Pourtant, il l'avait demandé. Et ici, sans qu'il demande rien, Ésaïe est placé devant cette gloire de Dieu. Ce dernier voit le Seigneur non seulement sur son trône, je trouve belle l'image, mais avec les pans de son vêtement qui descendent jusque dans le temple. Il y a vraiment ce lien entre le ciel et la terre pour moi. C'est ce Seigneur qui est pas seulement dans le ciel, mais qui est aussi présent parmi nous. Et puis, il est fait mention des séraphims. Il semble que dans cette fonction, c'est le seul texte où il est parlé de ces séraphins. Je ne vais pas trop m'étendre sur eux, mais surtout sur leur message, hein, qui est une sainte proclamation. Par trois fois, finalement, ils expriment la sainteté de Dieu. Ils mentionnent que le Seigneur est saint et expriment que sa gloire remplit toute la terre. Cette puissante proclamation, elle est forte puisqu'elle ébranle les portes du temple, il y a de la fumée. Donc ça doit être vraiment assez majestueux. Je pense que là, il y a des réalités spirituelles que nous, quelque part, on n'est pas toujours conscient, on oublie. Mais je pense que là, il a été en présence d'une réalité forte. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à ce constat. Cette vision, elle devait être grandiose, elle devait être exceptionnelle, quelque part pour Ésaïe, pleine de pureté, de clarté, sans ombre au tableau. Je vous laisse essayer d'imaginer un petit peu ce qu'il a pu percevoir au travers de ce qu'il nous rapporte là. Mais en entendant ces voix des séraphimes, confrontés à cette réalité, cette vérité, Ésaïe s'écrit « Malheur à moi ». Donc doublé, confronté à cette pureté, il est conscient non seulement de sa petitesse, sa fragilité, mais aussi de son impureté. Et il la confesse, conscient aussi que l'issue finalement de cette rencontre avec Dieu lui sera fatale. Et quelque part, il l'attend. Effectivement, il a été en présence du roi d'Israël, en présence du roi avec des lèvres impures, et ben, il ne peut subsister par voilà, ces paroles, comme pour nous, c'est pas toujours des paroles de bienveillance, hein, elles sont aussi parfois malveillantes, elles sont. Mais cette confession ne le concerne pas non plus uniquement lui en tant qu'individu, mais il reconnaît aussi, associe l'impureté de son peuple. Alors pourquoi? Parce que si on reprend les premiers chapitres du livre d'Ésaïe, on se rend compte qu'il y a quelques exemples de ces impuretés des lèvres. Au chapitre 1, verset 12, il est dit « Vous multipliez vos prières, mais avec des mains pleines de sang. » Puis au chapitre 2, verset 12, il est mentionné les orgueilleux, les arrogants, les hautains. Donc on peut s'imaginer que leur langue n'était pas toujours pure. Et en 5:20, je pense que c'est le pire, il est rapporté que « Vous nommez le mal bien et le bien mal. » Donc voilà, il reconnaît finalement son impureté, mais aussi il reconnaît cette impureté de son peuple, un peu comme Néhémie, comme Daniel, il va s'identifier à son peuple. Pour moi ici, il est repentant et il s'attend aux conséquences de cette rencontre avec Dieu. Et puis de façon très étonnante, la sentence n'est pas appliquée. Ésaïe n'est pas perdu, Ésaïe ne meurt pas. Je pense que face à cette sincérité, cette clairvoyance, ce repentir, le prophète il est plus seulement observateur de ce qui se passe, mais tout à coup il devient participant. Un des séraphins prend une braise sur l'autel. Eh bien, l'autel, c'est le lieu où finalement les offrandes pour l'expiation du péché étaient apportées. Donc, en lien avec cette expiation, il prend une braise, il la pose sur les lèvres d'Ésaïe. Non seulement sa faute est enlevée, pardonnée, mais son péché est expié, son iniquité ôtée. Il lui dit « Tu es purifié ». Alors après, il y a plusieurs termes, iniquité, péché, faute. Voilà, c'est, j'ai pas lu dans les commentaires quelque chose de convaincant, mais vraiment, il y a quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là. Donc, juste essayez d'imaginer. Il a été en présence du Seigneur. Il a eu une révélation de sa gloire. Il considère aussi sa petitesse et il se repent. Il se rend compte que finalement, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, de glorieux, mais en même temps, il est gracié. Dans cette situation exceptionnelle, impacté par la sainteté et la gloire de Dieu, mais aussi au bénéfice direct de sa grâce, finalement, quand Dieu va demander « qui enverrai-je ?», pour moi, c'est presque logique qu'il réponde « oui ». Je trouve que cette révélation du Seigneur, l'impact, mais aussi cette repentance, cette grâce, et il peut dire « me voici, envoie-moi ». C'est vrai que les autres fois, quand je lisais ce texte de façon un peu superficielle, j'avais l'impression que cette réponse un peu automatique, elle me dérangeait, j'ai l'impression que c'était un peu... Bon. Mais finalement, c'est assez logique de se rendre compte que dans cette dimension, il y a quelque chose qui se passe. Parce que pour moi, je fais le constat qu'il a vu le Seigneur, qu'il a entendu le message des séraphins, qu'il a compris ce qui se déroulait avec son cœur. Alors à ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu, il a accueilli sa parole, il y a répondu « Je suis prêt » et il a obéi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel, surnaturel, mais toujours en lien avec son vécu sur terre. Quelque chose de la révélation, quelque chose de l'intuition, quelque chose de l'adoration. Et ça dépasse la raison, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse les émotions, ça dépasse la volonté. Il y a quelque chose qui s'est déroulé et qu'il a vécu de fort. Et c'est pour ça que je trouvais que cette relation, elle est pleine de révérence envers Dieu. Il est vraiment, devant cette manifestation de la gloire, interpellé, mais elle est aussi transformante pour lui. Quand il reçoit cette grâce, hop, ça le met en action. Si j'insiste un tout petit peu sur cet aspect qu'il a vu, entendu, reçu de son cœur, vous remarquerez que c'est tout à fait l'opposé du message qu'il va délivrer. Ce message, ouais, il est un peu déroutant si on l'a lié avec notre pensée moderne. « Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux. » Alors, il faut juste se rendre compte que dans le langage sémitique dans lequel ce texte est rapporté, ces paroles, elles ne sont pas affirmatives, elles restent ouvertes. Donc, quand un sens causatif strict ou un sens permissif, ces paroles, elles laissent une zone intermédiaire. C'est un message qui donne encore l'occasion au peuple de se repentir, de se tourner vers Dieu. Ben, par contre, si le peuple y résiste, s'il reste dans ses mauvaises dispositions, s'il continue à endurcir leur cœur, à ne pas voir, à ne pas entendre, et surtout ne pas vouloir comprendre le message du prophète, alors, ben oui, la sentence sera sévère. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas attribuer tous les événements à Dieu comme on le ferait de façon un peu trop rapide, mais se rendre compte que la part de l'homme y est aussi pour quelque chose. Et puis, il y a cet acte de foi d'Ésaïe qui dit « jusqu'à quand ?» face à ses malheurs. Heureusement que si le jugement est très sévère, il y a quand même une semence sainte, ça c'est dans la traduction du Semeur qu'elle sort, qui va germer. Le salut est quand même là. Dieu garde la maîtrise, son plan d'amour se réalisera coûte que coûte. Alors voilà, j'ai peut-être tiré quelques réflexions de ce texte, un petit peu pour voir comment cette révélation de Dieu à Ésaïe, cet événement, peut aussi nous interpeller, m'interpeller. Comment est-ce que je peux apprendre des choses sur la repentance? Mais peut-être qu'il faut comprendre pourquoi la repentance, c'est une démarche qui a du sens. Alors là, je vous lis quelques extraits de Timothy Keller, théologien américain, sur le problème du péché. Voilà. Il est fait le constat que nous pouvons difficilement éviter d'admettre qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans le monde. Effectivement, il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans le monde et je pense que tout le monde en est plus ou moins convaincu. Alors, si le christianisme considère que notre plus gros problème est le péché, pour beaucoup de gens, cependant, ce concept de péché, c'est quelque chose d'injurieux et d'absurde. Alors, que veut dire ce terme qui jette une ombre sinistre et pessimiste sur la nature humaine? Et pourtant, rien ne saurait être moins vrai. Donc, il dit comme ça, ni le langage de la médecine ni celui du droit ne remplacent de façon adéquate le langage du péché. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine médical, nous ne sommes pas entièrement à la merci de nos maladies. Nous pouvons choisir de suivre le processus de la repentance. Et contrairement à ce qui se passe dans le monde juridique, l'essence du péché n'est pas avant tout la violation des lois de Dieu, mais il y a aussi la dimension d'une relation brisée avec Dieu, avec les autres et avec l'ensemble de l'ordre créé. Et puis, il y a des gens encore avant qui ont écrit d'autres choses fort intéressantes. Le célèbre philosophe danois Søren Kierkegaard, en 1849, il a écrit un petit livre intitulé « La maladie de la mort ». Et voilà ce qu'il dit du péché. Le péché, c'est ne pas vouloir être soi-même devant Dieu. Le péché, quelque part, c'est le refus de trouver son identité la plus profonde dans une relation avec Dieu et à son service. Péché, c'est chercher à devenir soi-même, acquérir une identité en dehors de Dieu. Donc, tirer son identité, ce sentiment d'être distinct et d'avoir de la valeur de quelque chose d'autre. Parce que finalement, tout un chacun a besoin, par un quelconque moyen, de justifier son existence. Pourquoi je suis là? Et puis aussi, éliminer cette peur qu'on a tous d'être un bon à rien. Donc, trouver notre identité, une valeur et le sens à notre vie, eh ben, Simone Weil le décrit très bien, tous les péchés sont une tentative pour remplir des vides. Alors, comme on ne peut pas supporter le vide en forme de Dieu qui se trouve en nous, nous essayons de le bourrer toutes sortes de choses, alors que seul Dieu peut le remplir. Et c'est vrai que finalement, la plupart des gens, mais nous aussi on le pense, quand on pense au péché, on se dit, c'est une violation des lois divines. Mais si on va un petit peu plus loin dans la réflexion avec Kierkegaard, quand on se rappelle le premier des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, en Exode 23, on se rend compte aussi que finalement, le péché, c'est pas l'accomplissement d'actes mauvais, oui, mais pas que ça. Ça peut être la transformation de bonnes actions en idoles. C'est-à-dire qu'on cherche à construire notre identité en prenant pour centre ce qui nous importe, ce qu'on vise, ce qui nous rend heureux, autre chose que notre relation avec Dieu. Timothy Keller, dans un autre livre, décrit un petit peu toutes ces idoles du cœur. C'est des bonnes choses, mais qui peuvent se transformer en idoles. Ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être la sexualité, ça peut être le travail, ça peut être le succès, ça peut être soi, ça peut être la religion. Alors là, je ne vais pas forcément aller plus loin, mais si justement on recherche notre identité ailleurs qu'en Dieu, ben ça a des conséquences personnelles. Mais Timothy Keller le développe dans son livre « La raison pour Dieu », ça a aussi une dimension sociale, c'est aussi une dimension cosmique, mais voilà, je ne vais pas les aborder forcément ce matin, référez-vous à ce livre si vous souhaitez en savoir plus. Alors, en partant finalement de la définition du péché, c'est-à-dire que le péché n'est pas simplement faire des mauvaises actions, mais remplacer Dieu par de bonnes choses, est-ce que la seule solution consiste à changer de comportement? On pourrait se dire, voilà. Moi, je pense un petit peu comme dans cette révélation d'Ésaïe qu'il a reçue, cette perception, on est vraiment pas seulement dans une dimension naturelle, mais là, il y a une dimension spirituelle. Non, il suffit pas de changer de comportement. Il faut réorienter sa vie et son cœur tout entier sur Dieu. Abandonner nos idoles. Saint Augustin l'a dit assez justement, si un Dieu vous a créé, alors les zones les plus profondes de votre âme ne peuvent être remplies par rien moins que lui. Donc Jésus est le seul Seigneur qui, si nous le recevons, nous comblera totalement et qui, si nous le décevons, nous pardonnera éternellement. Si Jésus est le centre de notre vie et notre Seigneur, si nous nous repentons, il nous pardonne si nous chutons. Peut-être un petit constat, dans l'Ancien Testament et jusqu'à Jean-Baptiste, finalement, plusieurs fois le peuple a été interpellé pour dire « repentez-vous ». Donc quelque part, il y avait cette nécessité pour le peuple de se repentir, de changer d'avis, de conduite, pour que préparer le chemin au Seigneur, pour que le Seigneur puisse rejoindre l'homme. Quelque part, il est un petit peu sous-entendu qu'il fallait mériter un tel salut, dans un sens moral, par l'observation fidèle à la loi. Mais quand Jésus va venir, il va inverser ce rapport, et c'est déjà un petit peu un prémisse qui se passe chez Ésaïe. C'est d'abord le salut qui est proclamé, et ensuite le changement de conduite, l'engagement de celui qui s'est sauvé. Et ça, on le voit dans la première prédication de Pierre à la Pentecôte, après avoir prêché, invité les hommes au salut, ils lui disent « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre leur répond « repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, car la promesse est pour vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. » Donc se repentir, croire à la bonne nouvelle que le salut est offert à chacun comme don gratuit de Dieu, c'est se décider pour le royaume, faire acte de conversion. Alors, je pense qu'on est plus ou moins tous au clair sur l'acte de conversion, repentance, on change d'attitude, on se tourne vers le Seigneur. Mais est-ce qu'on le fait qu'une fois dans sa vie? Est-ce qu'on l'a fait une fois pour toutes? Alors, dans un autre texte, en Marc 1, verset 15, Jésus dit « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, si on observe aussi là que cette repentance est en lien avec le royaume, dans le français, on ne le voit pas, mais si on lit le texte correctement dans la langue dans laquelle il est écrit, Jésus s'exprime ici par un présent impératif, c'est-à-dire un temps continu. Donc, quelque part, la repentance est aussi un processus de transformation. Comme une graine, la repentance nous fait passer par un processus de changement, c'est clair qu'il y aura des crises, il y aura des événements. Mais ceci, heureusement, ce n'est pas seulement pour un changement de surface, mais c'est le Saint-Esprit qui nous modèle à l'intérieur. La repentance n'est pas qu'un regret, mais elle a trait à l'action de l'Esprit. Quelque part, on pourrait résumer, se dire se détourner de quelque chose pour aspirer à quelque chose d'autre. Et ça, vous le lisez dans Ézéchiel 36, quand Dieu dit « Je vous purifierai d'une eau pure, je vous purifierai de vos iniquités et de vos idoles. » Et puis après, il parle du changement de cœur. Alors peut-être que quand je parle de ça, pour certains qui ont suivi le cours Vivre libéré, ça fait référence à quelque chose, les quatre R. Reconnaître, résister, remplacer, recevoir. Alors, je ne vais pas forcément développer énormément, mais juste vous dire que la première démarche, c'est reconnaître que nous avons péché. Nous pouvons tout certainement identifier une idole dans nos cœurs. Mais après l'avoir identifié, il faut renoncer au péché, recevoir le pardon de Dieu. Donc résister aussi à l'influence du diable qui veut que finalement on revienne dans son comportement. Renonçant au mensonge qui nourrit cette manière d'agir, notre idole ne remplacera pas le vide. Et remplacer finalement ce mensonge par la vérité, Dieu seul comble mon vide, remplacer ce péché qui est juste par ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et recevoir la plénitude de l'Esprit, réjouissons-nous des moyens qu'il nous donne. Peut-être encore juste une réflexion avant de conclure. Dans Matthieu 13, dans Luc 15, à propos de la parole du semeur, Jésus y mentionne l'importance d'un cœur sincère, d'un cœur bien disposé, non seulement pour écouter la parole, mais pour pouvoir l'entendre avec nos oreilles, la comprendre avec notre cœur. C'est clair qu'il y a quelque chose en nous qui résiste toujours à la parole. Mais Dieu, par Jésus-Christ, vient y mettre sa semence, apportant par son intervention divine un renouvellement fondamental de notre cœur, effectivement une conversion, mais aussi lorsqu'il y a une repentance, une guérison. C'est un petit peu l'inverse des menaces qu'Ésaïe prononce sur le peuple. Là, si on entre vraiment, si on accueille cette parole avec un esprit repentant, alors on peut entrer dans ce processus de guérison. Voilà donc, par rapport à ce que nous voulons vivre chacun et chacune, vous encourager à vivre avec Dieu notre Père dans cette relation renouvelée, c'est clair que si on accueille cette parole avec un caractère vrai, authentique, si on est repentant, alors nos motivations les plus profondes, elles seront purifiées, elles seront établies en Dieu et ça nous permettra de collaborer à son œuvre. Alors, l'écoute, le silence, la prière, les prières, le jeûne, sont des outils qui nous aident à garder la terre de notre cœur libre de toute interférence, y faire de la place pour la semence de Dieu, pour nous engager à son service. Alors finalement, pourquoi se repentir? Ma réponse, c'est parce que c'est un processus de transformation. C'est bien différent d'une pénitence où on essaye par des efforts de gagner le salut, d'accord? C'est vraiment un chemin pour réorienter notre cœur, notre vie sur le Seigneur. Et je pense que c'est dans une dimension spirituelle qui incarne, qui s'imprègne dans notre vie naturelle. Donc il y a cette dimension de l'esprit à laquelle il faut nous ouvrir pour que les réalités du ciel viennent s'imprimer sur la terre. Et je suis convaincu qu'en faisant preuve d'humilité, de repentir, en demandant grâce, Dieu pardonne et guérit, et ça c'est expliqué dans... Je me réfère à 2 Chroniques 7,14. Vous connaissez ce texte. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà. Alors que j'arrive au terme de ce que je voulais vous partager, vous verrez que je n'ai parlé quelque part que de la repentance personnelle. Ben, c'est clair qu'il y a d'autres dimensions, communautaires, sociales, cosmiques. Mais bon, ça demandera un autre développement parce que je pense que c'est aussi un thème en soi. Et probablement qu'avec David ou avec d'autres, on l'abordera prochainement, on le vivra. Peut-être juste encore une remarque, vous trouvez cette dimension de repentance nationale et après de l'action de l'amour de Dieu dans Joël au chapitre 2, des versets 18 à 27, vous pouvez le lire. Juste une petite remarque par rapport à ça. Dans ce texte, si Dieu intervient après la repentance du peuple, ce n'est pas cette repentance qui est la cause de l'amour de Dieu. Je ne dois pas me repentir, faire œuvre de pénitence pour gagner l'amour de Dieu. Non. On peut voir les choses, et je vous encourage à voir les choses différemment, et c'est une phrase que j'ai lue dans ce temps que je me préparais, qui est très belle. Se repentir, c'est enlever l'obstacle au déferlement de l'amour et de la grâce de Dieu. Je le répète, se repentir, c'est enlever l'obstacle au déferlement de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc là, il y a des réalités spirituelles qui nous dépassent. Et voilà pourquoi on projette ces quatre termes. Voilà, reconnaître, résister, remplacer, recevoir. Je vous laisse y réfléchir. Probablement que plusieurs sont, on aide tous en chemine. Peut-être pour d'autres, c'est un lancement. Mais voilà. L'idée dans cette démarche est vraiment d'enlever l'obstacle, les obstacles qui nous empêchent d'être en relation avec Dieu, mais surtout, j'aime bien cette expression, de laisser l'amour de Dieu cascader dans nos cœurs. Pourquoi ? Pour le vivre et pour le partager sur la côte. Amen.